4h à Paris, 3h en temps universel.
Antoine Galen.
Israël approuve une proposition américaine de trêve pour le Ramadan et la Pâque juive. L'État hébreu se dit prêt à entamer immédiatement des négociations si le Hamas accepte le plan américain. De son côté, le Hamas a publié une nouvelle vidéo d'otages israéliens captifs à Gaza en indiquant que seul un accord de cessez-le-feu ramènera les otages vivants. Message reçu 5 sur 5, le Parti des travailleurs du Kurdistan annonce un cessez-le-feu avec la Turquie. Et ce, après l'appel de son chef historique Abdullah Öcalan à cesser les hostilités. Alors le cessez-le-feu va-t-il tenir? On y reviendra dans ce journal. Et puis en Syrie, le Ramadan débute, le premier depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Ce samedi soir, le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a approuvé une proposition américaine d'étendre la trêve à Gaza pendant le Ramadan et la Pâque juive. La première phase de la trêve s'est terminée ce samedi. Ces dernières heures, la branche armée du Hamas a publié une nouvelle vidéo d'otages israéliens captifs à Gaza en indiquant que seul un accord de cessez-le-feu ramènera les otages vivants à Jérusalem. Oriane Verdier.
La vidéo met en scène les adieux des deux frères Horn. Yair a été libéré il y a 2 semaines alors que son petit frère Eitan est toujours détenu à Gaza. Après leurs embrassades, Eitan s'adresse face caméra aux autorités israéliennes. Il leur demande de signer la deuxième et la troisième phase de l'accord sans attendre. La famille d'Eitan Horn a rapidement autorisé la diffusion de cette vidéo et réagi via le forum des familles. « Nous avons le cœur brisé », affirme-t-elle dans un communiqué. « Nous demandons aux autorités de regarder Eitan dans les yeux. Ils n'ont plus beaucoup de temps. L'association des familles d'otages appelle les autorités israéliennes à tous les ramener en une seule fois dans la semaine à venir. Aujourd'hui, le Hamas a également réaffirmé sa volonté d'aller au bout des étapes restantes de l'accord de trêve devant mener à un cessez-le-feu, au retrait des forces israéliennes de Gaza et à la reconstruction. C'est justement ce retrait que refusent d'envisager les autorités israéliennes qui exigent une démilitarisation de la bande de Gaza. Elles demandent une prolongation de la première phase de l'accord afin d'obtenir de nouvelles libérations d'otages par groupe sans discuter de la fin de la guerre. Julien Boileau, Oriane Verdier, Jérusalem, RFI.
Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a signé l'envoi de 4 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Keir Starmer, plus conciliant que Donald Trump avec Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre britannique a rencontré son homologue ukrainien à Downing Street ce samedi. Le Premier ministre britannique a voulu rassurer le président ukrainien du soutien indéfectible du Royaume-Uni en amont du sommet européen qui aura lieu dimanche à Londres et qui devrait se consacrer à la stratégie européenne dans les discussions de paix. Pendant cette réunion, Londres et Kiev ont signé un accord portant sur un prêt de 2,26 milliards de livres pour soutenir les capacités de défense ukrainienne. C'était le premier imam ouvertement gay du monde. En Afrique du Sud, des centaines de personnes se sont rassemblées au Cap pour demander justice après la mort de Mohsin Hendricks, tué en février dernier. Un assassinat qui a choqué l'Afrique du Sud et fait trembler la communauté LGBT. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à avoir légalisé le mariage gay en 2006. Mais les agressions et discriminations ne sont pas rares. La fin des hostilités entre le PKK et la Turquie, le Parti des travailleurs du Kurdistan a en tout cas annoncé un cessez-le-feu. Et ce, après l'appel de son chef historique Abdullah Öcalan à déposer les armes et à ouvrir les discussions en vue de sa dissolution. Si cette trêve est respectée et qu'elle débouche sur un accord de paix, cela mettrait fin à 4 décennies de guérilla qui a fait au moins 40 000 morts. Alors, le cessez-le-feu va-t-il tenir? Élément de réponse du spécialiste de la Turquie, Nicolas Monceau, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bordeaux.
Il y a une grande inconnue sur les conditions du respect de cette trêve, et l'inconnue sur le respect de cet appel au désarmement et à dissolution par l'ensemble des membres ou partisans du PKK, d'une part, et puis il faut aussi que cet appel à la trêve soit accepté à la fois par les milieux politiques et par la société en Turquie. Or, on observe d'ores et déjà, depuis cet appel jeudi dernier, qu'il y a des clivages politiques. L'opposition au président Erdogan ou à l'AKP au pouvoir, en particulier dans les milieux nationalistes et d'extrême droite, ont déjà exprimé leur opposition à cette trêve. Et un dernier point, la société société turque, la population en Turquie, qui est traumatisée par ces 40 années de guérilla. Il faut rappeler qu'il y a eu plus de 40 000 morts, de nombreux déplacements de population, destruction dans l'est du pays, et doit aussi accepter cette trêve. Et donc, il y a une nécessité de préparer l'opinion et d'accompagner l'opinion, la population dans cette direction.
Nicolas Monceau, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, des propos recueillis par Arim Lipold. Le ramadan débute et en Syrie, il ne ressemblera en rien au précédent. C'est le premier depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Reportage dans les rues de Damas avec notre correspondant Mohamed Erami.
Dans une rue du quartier de Mezeh, au sud de la capitale Damas, les habitants ont décoré les façades de leurs maisons avec des lumières pour célébrer l'arrivée du mois sacré. Joie et optimisme se lisent sur les visages des Syriens, comme l'exprime Om Mohammed, une sexagénaire.
Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, gloire à Dieu. Ce ramadan cette année a une ambiance différente après que nous ayons triomphé et été libérés. Louange à Dieu, et maintenant l'atmosphère est vraiment agréable, surtout dans les marchés et pour acheter les articles de ramadan.
Mais cette joie reste incomplète pour Mahmoud, qui estime que la crise économique et la flambée des prix assombrissent la célébration du ramadan après des décennies de règne d'Assad.
Honnêtement, on peut dire que l'afflux dans les marchés pendant le ramadan est plus important cette année. L'année dernière, les prix étaient élevés pendant tout le mois sacré, mais les Syriens avaient un peu d'argent entre leurs mains. Alors que cette année, l'afflux est plus important et les prix sont moins chers, mais le problème réside dans le manque d'argent et de liquidité dans tout le pays.
Pendant plus de 50 ans, la famille Assad a gouverné la Syrie d'une main de fer, restreignant les libertés publiques et instillant, selon de nombreux Syriens, la peur au sein de la population. À Damas, Mohamed Erami, RFI.
L'île de la Réunion défigurée après le passage du cyclone Garance, toits envolés, arbres déracinés, coulées de boue massives, le nord et l'est de l'île ont été particulièrement touchés. Au moins 4 morts et 5 blessés sont à déplorer. L'alerte rouge a été levée ce samedi, mais près de 310 000 personnes sont toujours privées d'eau potable, 160 000 d'électricité. Autre catastrophe naturelle, cette fois au Japon, plus de 1200 hectares ont brûlé dans le nord-est du pays. C'est le pire feu de forêt depuis plus de 30 ans. Une personne est décédée et plus de 1000 habitants ont dû évacuer. Ce samedi, 1700 pompiers étaient toujours mobilisés pour éteindre cet incendie dont on ne connaît toujours pas la cause. C'était du jamais vu depuis des décennies. En février 2020, l'Inde a vécu une flambée de violence entre hindous et musulmans. Des affrontements religieux dans la capitale indienne à la suite d'une loi controversée sur la citoyenneté. Une récente enquête publiée par la BBC en Inde révèle que les crimes n'ont pas été résolus. Correspondance Léa Ojal.
Les personnes impliquées n'ont toujours pas été jugées. C'est ce que révèle une enquête publiée par la BBC en Inde. 80% des affaires liées à la violence pour lesquelles les tribunaux ont rendu des décisions se sont soldées par des acquittements ou des relaxes. Et dans 62 des 758 affaires portant sur des accusations de meurtre, il n'y a eu qu'une seule condamnation et 4 acquittements. En février 2020, de terribles affrontements ont touché le nord-est de la capitale. À l'origine, un désaccord autour de la loi controversée sur la citoyenneté. Elle facilite l'obtention de la nationalité indienne pour les hindous, sikhs, bouddhistes, jaïns et chrétiens ayant fui l'Afghanistan, le Bangladesh et le Pakistan. Les musulmans, quant à eux, en sont exclus. Derrière cette loi se cache en fait un combat rangé entre nationalistes hindous et musulmans qui a donné lieu à ces émeutes meurtrières. Au total, plus de 50 personnes musulmanes, pour la plupart, ont été tuées lors de ces émeutes. Selon un rapport publié en 2024, en Inde, les appels à la haine contre les musulmans ont augmenté de 74%. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
En Argentine, le président d'extrême droite Javier Milei affirme que sa tronçonneuse budgétaire durera des années. Une déclaration lors de son deuxième discours sur l'état de la nation depuis son arrivée au pouvoir. Président depuis décembre 2023, il a coupé dans les dépenses publiques, supprimé des emplois et asséché de nombreuses subventions. Et puis du sport avant de fermer ce journal. En football, le Real Madrid sombre à Séville, défaite 2-1 contre le Betis. L'Atlético en profite, il dépasse leurs rivaux au classement grâce à une victoire 1-0 contre Bilbao. Le Paris Saint-Germain Saint-Germain écœure Lille, victoire 4-1. Remontada du Havre contre Lens 4-3. Quelques heures plus tôt, Nice a battu Saint-Étienne 3-1. Et puis en Italie, Naples et l'Inter Milan se neutralisent 1-1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.